Tous les livres dont il est question dans l'émission qui suit sont disponibles auprès du Service québécois du livre adapté. Bibliothèque et Archives nationales du Québec offrent gratuitement ce service à tous les Québécois ayant une déficience perceptuelle. Pour plus d'informations sur l'admissibilité et l'abonnement, on visite le site sqla.banq.qc.ca ou on téléphone au numéro sans frais 1-866-410-0844.
Il sentit son corps entrer dans l'eau comme une pierre, puis couler vers le fond. La lumière l'accompagna un instant, et il vit autour de lui les poissons effrayés.
Veux-tu m'expliquer ce que tu as vu au ciel?
S'exclama-t-il.
Et plus profond
encore, lecture de la légende.
Qui venait à sa rencontre en même temps.
Page 148.
Tenir bon. Bientôt ce sera fini.
Fin du chapitre 12.
À livre découvert.
Première émission de la saison 2014-2015. Mes amis, bonjour, c'est Clotilde Seil en votre compagnie. Nous aurons cette année plus de temps, nous aurons plus de découvertes, plus de titres à vous soumettre. Voici À livre découvert et son nouveau format d'une heure.
La table des matières.
Alors à tout seigneur, tout honneur, on va commencer aujourd'hui avec André Vincent, chef des services adaptés du BANQ, dont le SQLA, qui vous permet de vous procurer tous ces livres en format DESI, dont nous faisons la promotion à cette émission. Et puis je vais également accueillir en studio Michèle Corbeil, la directrice du Festival international de littérature qui va s'ouvrir dans 2 jours. Et j'accueille aussi en studio Jacques Tremblay, bénévole. Tous ces invités, bien sûr, partageront un coup de cœur littéraire, comme le veut la tradition de cette émission. Sinon, eh bien écoutez, il va y avoir des nouvelles rubriques durant cette heure-là, bien sûr. On va revisiter un classique, on va écouter un extrait d'une nouveauté lue ici même chez Vues et Voix, et puis on va associer des nouvelles de l'actualité littéraire à des œuvres disponibles au SQLA. Voilà, je pense n'avoir rien oublié. Alors, on commence.
Chapitre 1. Les livres audio, ils en mangent.
Les livres audio, ils en mangent, et celui que je vais accueillir maintenant, il en mange aussi plus particulièrement, car c'est un dévoreur de bouquins. Bonjour, monsieur André Vincent.
Bonjour, Clotilde.
Vous comme... allez bien? Oui, je vais très bien, et vous-même?
Oui, après un bel été.
Ah, après un bel été. Est-ce que vous en avez bien profité?
Bien sûr, bien sûr. Quelques vacances.
Bon.
Retour depuis un bon moment maintenant.
Et là, vous reprenez du service, à titre notamment de chef des services adaptés de BANQ. Et je vous l'ai dit en préparation de cette émission-là, avant que, comme traditionnellement, vous nous parliez d'un livre, comme nous avons l'habitude de le faire, je voudrais vous poser quelques questions, André, parce que en fonction, j'allais dire de vos fonctions, mon Dieu que cela est mal dit et je m'en excuse, vous savez, il y a un petit peu de nervosité aujourd'hui. Comme c'est la première, là, c'est un nouveau format, tout ça. Alors, elle est un petit peu nerveuse, elle est un petit peu brouillonne, peut-être l'animatrice, mais on me pardonnera.
On comprend ça.
Vous comprenez, ben vous êtes gentil. André, je voudrais peut-être vous poser certaines questions que des non-voyants m'ont souvent posées par rapport au fonctionnement du SQLA. Est-ce que cela vous va?
Bien sûr.
Bon, par exemple, ils se le demandent toujours, mais finalement, combien de livres audio sortent, toutes productions confondues à peu près par année au SQLA?
Certaines années, je dirais au cours des dernières années, au niveau des livres audio numériques, on a dépassé le millier de titres.
Le millier de titres?
Oui.
Et vous avez à peu près trois productions, hein, parce qu'on n'est pas les seuls à vous fournir. D'ailleurs, on en parle ici même.
Oui, on a quelques fournisseurs, bien que Vues et Voix soit le principal fournisseur de BANQ, voilà. Mm-hmm.
Mais dites-moi, parce que cette question-là, vraiment, elle revient tout le temps, comment se fait le choix des livres?
Le choix des livres est fait à partir d'une politique de développement des collections. Il y en a pour toutes les collections en BANQ, donc il y en a une pour les collections adaptées. Et je dirais que cette politique, elle est quand même un peu plus pointue, parce que contrairement à ce qui se passe dans d'autres collections où on acquiert à peu près tout ce qui est produit en français chaque année, Évidemment, du côté du livre adapté, étant donné qu'il faut faire justement modifier les livres, les faire enregistrer ou mettre en braille selon le cas, ben on peut pas le faire pour tout ce qui paraît sur le marché de l'édition. Donc, la sélection se fait de façon un peu plus pointue, mais en gardant un juste équilibre entre la fiction, les biographies et les documentaires, tout en tenant compte aussi des suggestions des usagers.
Ah, c'est ça, parce qu'ils peuvent vous en faire, hein?
Tout à fait, tout à fait. Et nous, sans prendre l'engagement de faire tout ce qui nous est suggéré, on tient compte, dans la mesure du possible, de ces suggestions-là, en s'assurant que ça va rejoindre un public relativement large. Là, il est certain que si quelqu'un souhaite qu'on acquiert un document qui est tellement spécialisé que lui seul va en faire l'écoute, malheureusement, on ne pourra pas nécessairement donner suite à ce genre de demande.
Et est-ce qu'on peut chiffrer à peu près combien il y a d'abonnés au SQLA?
Au moment où on se parle, il y en a environ 6 000 actifs.
Okay.
Donc, ceux qui ont emprunté des titres au cours des 6 derniers mois. Mais dans notre base de données, on a tout près de 11 000 abonnés actuellement, mais tous ne sont pas actifs.
Non, c'est ça. Et comment pourrait-on faire pour les rejoindre, ces 6 000 personnes? Parce que je suis convaincue que sur les 6 000, il y en a beaucoup qui ne savent même pas que notre émission existe, et pourtant, on les aiderait à faire leur choix. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
Bien sûr que une telle émission, il y a quelques personnes qui m'en parlaient encore récemment, qui l'ont découvert par hasard et ça les a beaucoup intéressés.
Oui.
Je dois dire que les usagers des services adaptés connaissent en général bien les collections, pas toujours l'émission à livre découvert, mais de notre côté, on essaie justement de transmettre et d'inciter les lecteurs là, à écouter cette émission où il y a de bonnes critiques des ouvrages disponibles au SQLA, justement.
Alors, parlons-en des critiques. Est-ce que les abonnés osent faire leurs commentaires lorsqu'ils écoutent un livre, d'ailleurs qu'il soit bon ou mauvais? Est-ce qu'il y a des fois où vous recevez des commentaires négatifs en disant « je suis désolé, mais c'est mal lu, c'est inécoutable » ou le contraire? Est-ce que vous recevez des commentaires positifs, des félicitations? Parce que vous savez, ils en travaillent un coup ici, les bénévoles, pour enregistrer des bouquins.
Effectivement, nous recevons des commentaires généralement par téléphone quand les abonnés communiquent avec le personnel des services adaptés pour commander de nouveaux titres, pour nous faire part de leurs préférences. Et je dois vous dire que de façon très générale, ces commentaires sont positif.
Parfait.
À l'occasion, il va y avoir quelques commentaires négatifs, justifiés dans la mesure où on peut l'évaluer. Il y a quelquefois des documents et je dois dire que c'est moins le cas dans les enregistrements récents, mais si on regarde des titres produits il y a plus longtemps, ben peut-être que la qualité de la narration où il y avait certains défauts qui nous ont été signalés, mais encore une fois, ça demeure une très, très petite minorité. Alors, de façon générale, les commentaires sont positifs.
Bon, ben écoutez, tant mieux. André, ce que j'espère, c'est que nous allons pouvoir collaborer souvent ensemble pour vraiment faire connaître encore plus cette émission-là à ceux qui peut-être ne la connaîtraient pas et qui pourraient découvrir et entendre tout ce que mes invités ont à partager. Vous savez que je reçois des gens de tous les milieux, des gens qui sont toujours contents de venir servir aussi la cause des aveugles qui adorent écouter ces livres que nous enregistrons. Alors, c'est ce que je souhaite.
Oui, et j'ajouterais peut-être en terminant ce volet-là qu'on pense souvent que les titres audio sont lus uniquement ou presque par des personnes qui ont des déficiences visuelles, mais on a de plus en plus d'autres personnes qui ont des déficiences perceptuelles. Notamment la dyslexie sévère, ce qu'on appelle des troubles d'apprentissage, et on a de plus en plus de ces personnes qui s'abonnent aux services adaptés et utilisent les collections du SQLA.
Ben écoutez, André, j'ai pris un petit peu plus de temps que ce que je pensais à vous poser ces questions-là. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais je m'en voudrais, moi, par contre, si on n'abordait pas cette petite marchande de souvenirs de François Lelort dont vous aviez envie de nous parler aujourd'hui.
Oui, qui est un roman que j'ai lu il y a quelques semaines et qui m'a beaucoup plu. C'est un roman qui, notamment parce que ça se déroule dans un pays avec lequel on est moins familier, ça se déroule à Hanoï, vers la fin des années 90, et ça nous fait vivre la rencontre vraiment entre l'Occident et l'Extrême-Orient, et ça tente de répondre à la question, est-ce que c'est possible que des personnes venant de cultures différentes puissent justement établir une conversation ensemble. Okay. Alors, c'est l'histoire d'un jeune médecin, Julien, qui s'appelle et qui est attaché à l'ambassade de France à Hanoï et qui va faire la connaissance sur le bord du lac de l'Épée d'une jeune Vietnamienne qui tente de faire vivre un peu sa famille dans une époque difficile, en vendant des souvenirs et en le faisant, c'est un petit peu clandestin. C'est pas nécessairement permis par les autorités. Alors, la petite marchande de souvenirs, elle s'appelle Lumière d'automne et il va s'établir, ma foi, une belle communication entre ces deux êtres-là. Et ça se déroule sur fond aussi d'une situation un petit peu difficile et qui nous fait penser à ce qu'on entend parler, hélas, beaucoup de nos jours. Il y a une épidémie mystérieuse qui apparaît à un moment donné à Hanoï et qui a pris naissance dans les montagnes au sud du Vietnam. Et Julien va être appelé avec une collègue à aller voir ce qui s'est passé exactement là-bas. Et je ne veux pas rentrer dans
les
détails pour garder le suspense. Mais à travers tout ça, Julien et Lumière d'automne vont se retrouver et les lecteurs auront la chance d'écouter la suite en empruntant ce document au SQLA.
Que vous faites bien ça, André. André Vincent, le livre s'intitule, je vous le rappelle, La petite marchande de souvenirs. Et c'est signé François Lelort, L-E-L-O-R-D. André Vincent, je vais avoir l'occasion de vous avoir à nouveau à cette émission, c'est certain, parce que, comme je le disais, vous êtes un dévoreur de bouquins, vous aussi.
Avec grand plaisir.
Merci et belle fin de journée. Merci beaucoup, André.
Au revoir.
Au revoir. On va me passer un petit peu de musique. Tiens, j'ai envie qu'on écoute une chanson. C'est rare à cette émission-là, mais ça s'impose et vous comprendrez pourquoi avec ma prochaine invitée. On écoute Le Rendez-vous. C'est Pauline Julien.
Adorez-vous parmi vos souvenirs ce rendez-vous où je n'ai pu venir. Jamais, jamais, vous ne saurez jamais si ce n'était qu'un jeu, si je vous aimais. Les rendez-vous que l'on cesse d'attendre existent-ils dans quelque autre univers? Où vont aussi les mots qu'on n'a pas pris le temps d'entendre et l'amour inconnu que nul n'a découvert? Quand on court après la fortune, on risque de perdre l'amour. J'ai payé de mes clairs de lune de vouloir allonger mes jours, augmenter le chiffre d'affaires. Pour gagner quoi? Quelques billets qui ne pourront jamais refaire le hasard que je gaspillais. Garderez-vous parmi vos souvenirs ce rendez-vous où je n'ai pu venir. Jamais, jamais, vous ne saurez jamais si ce n'était qu'un jeu ou si je vous aimais. Les rendez-vous que l'on cesse d'attendre existent-ils dans quelque autre univers? Où vont aussi les mots qu'on n'a pas pris le temps d'entendre et l'amour inconnu que nul n'a découvert? Nos peurs faisaient sauter la banque, c'était une question de temps. Mais un rendez-vous que l'on manque est mille fois plus important. Même quand c'est un inconnu qui fait les 100 pas quelque part. Car je sais, vous êtes venu et je suis arrivé trop tard. Reviendrez-vous par un soir de printemps au rendez-vous quelque part dans le temps. Ce rendez-vous que nous avons perdu, si vous voulez encore peut nous être rendu. Par ma chanson, ce soir je vous le donne. Et désormais, j'attendrai votre pas tout le long de mes jours, puisque je sais mieux que personne que vous n'existez pas. Que vous n'existez pas.
Chapitre 2. L'invité spécial.
Et avant de vous présenter mon invité spécial, de vous la représenter, ces quelques mots. Je ne suis pas une écrivaine, mais j'ai pour eux une immense gratitude, car c'est dans leurs livres que je trouve, comme l'a écrit Alberto Mengele, ma propre histoire. Je crois aussi, tout comme l'écrivaine russe Ludmila Ulitskaya, que la littérature est la seule chose qui aide l'homme à survivre et à se réconcilier avec son temps. Bonjour Michel Corbeil.
Bonjour, merci de m'accueillir cet après-midi.
Ça nous fait très plaisir. Je vous accueille en tant que... C'est vous qui avez écrit ces mots-là.
Tout à fait.
Et vous les avez écrits en tant que directrice du FIL, le Festival International de Littérature qui s'ouvre dans quelques jours.
Dans quelques jours, le 12 septembre.
Et qui va se prolonger jusqu'au 21 septembre. Voudriez-vous... D'abord, il a quoi? Il a 20 ans, le FIL?
Il a 20 ans cette année. Il a été créé en 1994 par l'Union des écrivaines et des écrivains québécois, oui. Donc par des écrivains. Ce qui le distingue de plein d'autres événements, puisque c'est des artistes, des écrivains qui au départ ont voulu ce festival. Parce que la danse en avait un à l'époque, le théâtre, le cinéma, et on s'est dit pourquoi pas la littérature. Le FIL vole de ses propres ailes depuis 10 ans, mais moi je suis toujours restée fidèle, disons, aux vœux de ces écrivains qui au départ l'ont fondé. Et comme je l'ai écrit dans mon mot, moi je veux dire, je suis tombée dans les livres, dans la littérature quand j'étais enfant, et je pense que j'en suis jamais sortie, c'est toute ma vie. Oui. J'ai fait tous les métiers du livre, et ce festival je le dirige seule depuis 10 ans, mais j'y suis associée depuis sa fondation en 1994.
Alors, vous faites partie sûrement de ces gens qui doivent être absolument désespérés quand on entend les propos qu'on entend depuis quelques semaines par rapport à la littérature à l'école, par rapport aux livres, par rapport...
De se faire dire qu'on n'en meurt pas, je pense que oui, on en meurt d'une certaine façon, parce que je crois qu'on a besoin d'imaginaire, je crois qu'on a besoin de se faire raconter des histoires.
Oui.
Enfant, mais plus âgé aussi. Toute sa vie, on a besoin de se faire raconter des histoires. Et puis de trouver dans les livres aussi à la fois une inspiration, à la fois quelquefois des solutions, s'identifier aux personnages. Tout ça, c'est comme très important et c'est très formateur aussi. Mmh. Ça nous permet de... Moi, je me rappelle très bien qu'enfant, je m'isolais pour lire.
Ouais.
Et ça me permettait d'avoir tout mon imaginaire, tout mon jardin secret. Et ce jardin secret, il est très important.
Et vous savez que chez nous, quand on dit se faire raconter des histoires, c'est d'autant plus vrai que la majorité des gens qui nous écoutent se font raconter les livres, puisqu'on leur lit à voix haute. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pensé à vous inviter, peut-être plus qu'un autre festival,
ouais,
parce que c'est vraiment un festival où on nous raconte, où la lecture à voix haute est très importante.
Complètement. D'ailleurs, j'aimerais bien que vos auditeurs, ceux qui justement, on peut appeler non-voyants, difficultés à lire, ou peu importe, qu'ils soient présents dans les salles.
Mais oui.
Parce que vous vous retrouvez, cette année, j'ai René Richard Cyr qui va lire Die Profundis d'Oscar Wilde. Mais on n'a pas besoin de le voir comme tel, René Richard. On est dans la salle et on l'écoute. Mm-hmm. On peut écouter Charlotte Rampling nous dire les mots de Sylvia Plath.
Oh, ça
on n'est pas obligé
chose.
De la voir comme tel. Il y a plusieurs des spectacles qui sont en salle où on n'est pas obligé de voir la personne, on peut l'imaginer. La même façon que je dis souvent, quand on lit un livre, puis que après, on voit l'adaptation au cinéma, quelquefois on est déçu parce qu'on a imaginé les personnages différemment de ce qu'on voit à l'écran. Mais ça peut être aussi ça, ça peut être une façon différente, disons, de fréquenter ce festival.
Alors, pour revenir à René Richard Cyr, il sera les 15 et 16 septembre dans la salle intime Claude Léveillé de la Place oui. des Arts. Parmi les autres événements que je voudrais aborder ici, il y a un concert littéraire qui réunit Richard Desjardins, oui. au Témoin d'un doute, oui. Alexandre Dacosta, oui. Violoniste, et puis Lorca, je connais moins.
Stéphane Etier.
OK. Alors, parlez-nous de ça un petit peu. Alexandre Etier.
Alexandre Etier, pardon, je me suis trompée de son prénom.
OK, c'est ça.
Donc,
excusez-moi, ce sont sur des textes
de Lorca.
De Lorca. Voilà,
Richard, dans ce spectacle, ne chante pas Lorca. Lorca a été chanté, vous savez, Lorca a été chanté par plusieurs, et Paco Ibanez, par...
Bah, Ibanez, oui, qui a chanté voilà, Brassens aussi,
exactement,
qui a chanté tellement de gens.
Mais là, dans ce cas-ci, Richard va dire les textes de Lorca. Et puis, ce projet-là, il vient d'Alexandre Dacosta, qui est un grand guitariste. Et puis, qui va l'accompagner avec des musiques...
Violoniste.
Et l'autre, Alexandre Etier, est un guitariste.
C'est ça.
Donc, avec des musiques espagnoles. Donc, c'est vraiment, on dit concert littéraire, parce qu'au festival... Ce qui est au centre, finalement, de tout ce que je fais, c'est de donner envie aux gens de lire, de connaître des œuvres littéraires. Et puis, souvent, il y a d'autres disciplines artistiques, comme la musique, comme le théâtre, comme la danse, comme les arts visuels, qui font en sorte qu'on provoque des rencontres, finalement, entre littérature et autres formes d'art.
Ce sera le 18 septembre au Théâtre Outremont.
On a déjà annoncé une supplémentaire le 19 septembre.
C'est vrai.
Le lendemain, on l'a annoncé... Il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine, parce que, je veux dire, les gens sont complètement emballés par cette idée, ce que je peux très bien comprendre.
Et puis, c'est le retour de Poésie, Sandwich, etc. Ça, c'est...
Tout à fait.
C'est un classique.
C'est un classique. On est rendu à la 9e année. Mm-hmm. C'est vraiment une façon extraordinaire de découvrir la poésie. C'est à la fois, on chante, on la danse, on la crie, on la hurle. Et puis, on finit par les sandwichs. Et ça s'appelle Poésie, Sandwich et autres soirs qui penchent, en référence... à Guy Moffett, qui faisait le cabaret des Soirs qui penchent. Louis Moffett, l'instigateur de ce spectacle, et le fils de Guy Moffett.
Et alors ça, c'est du 12 au 14 septembre, à la 5e salle de la Place des Arts. Il y a aussi, évidemment, on ne pourra pas parler de tous les événements, parce que je vous ai aussi fait venir pour nous parler d'un livre que vous aimez. C'est la mission de cette émission, et c'est important de le faire. Juste un petit mot quand même, l'atelier de Gilles Vigneault.
L'atelier de Gilles Vigneault. Gilles, quand il y a quelque temps, il a décidé qu'il ne ferait plus de spectacle. Donc, moi, il m'a téléphoné, il m'a dit « Je voudrais bien faire une rencontre où les gens pourraient me poser des questions. » Ils vont me poser des questions et puis on va comme on va discuter ensemble. Je peux leur raconter plein d'anecdotes sur ma vie, sur ma carrière et tout. Alors, le temps a un peu passé, il a fait son disque, il a adoré ça. Et puis, il m'a rappelé, il m'a dit « Tu sais, ça serait peut-être pas mal que mon musicien soit sur scène aussi. » Alors, j'ai dit, oui, le musicien peut être sur scène. Alors, il m'a dit, parce que quelquefois, tu sais, pour répondre à une question, peut-être que l'envie pourrait me prendre de chanter une petite chanson, de dire un poème.
Avec Jean-François Groux, hein,
c'est ça. Exactement. Alors, on continue à dire que c'est une rencontre forum, mais je peux vous dire quand même que le pianiste est là et que Gilles est prêt à chanter une petite chanson ou à faire un petit poème.
Le 21 septembre, au Théâtre Outremont.
Oui.
Nous parlons de chansons. Je vais refermer le petit tiroir du fil du Festival international de littérature qui, je le rappelle, va se dérouler. C'est le 20e du nom du 12 au 21 septembre. Et je vous ai demandé aussi, parce que c'est la règle du jeu quand on vient ici, de nous parler d'un livre. Mm-hmm. Et là, on vient d'aborder la chanson avec Gilles Vigneault. On reste là-dedans.
Tout à fait.
On va peut-être comprendre pourquoi j'ai diffusé Pauline Julien.
Tout à fait. C'est La Renarde et le Mal Peigné. C'est la correspondance de Pauline Julien et de Gérald Godin. Ouais. J'ai choisi ce livre parce que bon, c'est un livre que j'aime vraiment beaucoup, parce que j'ai eu beaucoup de plaisir. J'aime beaucoup les correspondances. Et puis, pour d'autres raisons aussi, c'est que Gérald Godin est décédé en 94, l'année de la fondation du festival.
Ah,
en effet. Pauline est décédée en 98. Et ce recueil, La Renarde et le Mal Peigné, je l'ai fait en spectacle aussi avec Marie Tifo. Et Pierre Curzi. J'avais choisi justement à la fois une actrice, un homme politique qui était aussi artiste, un peu en correspondance avec Pauline et Gérald. La raison pour laquelle j'aime aussi beaucoup ce livre, c'est que, bon, je les ai connus tous les deux, donc ça me touche énormément de lire cette correspondance, mais aussi c'est qu'il y avait dans ce couple une telle passion, un tel respect du travail de l'autre, et en même temps, il n'y avait aucune concession. Ils disaient les choses crûment, mais en même temps, ils s'encourageaient très fortement. Ouais. Et puis on disait tantôt que dans les livres, on trouve à la fois, on trouve son histoire, on retrouve... Moi, j'aime bien ce type de relation-là. C'est que moi, je sens que quand je commence à m'apitoyer sur mon sort en me disant « je travaille trop, je travaille trop », je sens la pire chose qu'on peut me faire, c'est finalement me dire « pauvre petite ». Mais si on me dit « bah allez, allez, secoue-toi », ou encore « mais t'es bonne à rien finalement, c'est sûr que ça va être très très mauvais », je suis furieuse. Alors du coup, je réagis et je donne le meilleur de moi-même. Et la relation de Pauline et Gérald était vraiment dans cet esprit-là.
Michel Corbeil, vous êtes donc directrice des fils, du fil, je vous le rappelle, quand je vous dis que je suis un peu nerveuse, je suis en train de le montrer une nouvelle fois. Je vous ai demandé de nous choisir un petit extrait avant, juste avant, je voudrais qu'on parte cette mélodie-là qui va aussi vous rappeler quelque chose.
Alors juste pour vous situer, Pauline est à Paris, Pauline a le trac, Pauline a de la difficulté à faire ses spectacles et elle écrit à Gérald et Gérald lui répond « Tu es la femme de ma vie ». Or malgré tout ça, malgré que ce soit ta crise de carrière, ton crise de métier, ton crise de tempérament, ta crise de volonté et enfin toi qui sois directement responsable de tout ça, c'est toi qui m'écris que tu me détestes ? Voilà ce que j'avais à te dire. Tu as besoin de tendresse, je t'en donnais. Tu as plus besoin de chanter, voilà tout. Tu as plus besoin de mener à bien ta carrière. Et comme disait Barbara, mon métier de chanteuse, je l'ai réussi. Mon métier de femme, je ne l'ai pas réussi. C'est difficile d'être une femme. Puis il ajoute, c'est difficile d'être en amour avec une femme qui ne veut pas être une petite conne de ménagère. Voilà ce que j'avais à te dire. Ronge ton frein, ma Calice. C'est toi qui l'as voulu, ce métier, ce pari. Et moi aussi, je ronge le mien. Je ne souffre pas moins que toi, hostie. Je t'aime trop et ça me tue quand tu n'es pas là, ton Gérald.
Je vous remercie infiniment, Michel Corbeil, surtout d'avoir lu ce passage, parce que si j'avais été là, j'aurais choisi le même passage. Sauf qu'avec mon accent français, vous avez remarqué que je suis de la minorité audible, mettons que ce serait moins bien passé, quoi. Alors, je suis absolument ravie et je vous remercie d'être venu à cette émission. Vraiment, Michel Corbeil, et ne ratez pas, mes amis, vous qui aimez vous faire raconter des histoires, le film, le fil. Chaque fois, je l'aurai. Un jour, je l'aurai. Le fil, c'est pour vous. Le Festival international de littérature, et c'est à Montréal.
Vous écoutez À Livre Découvert avec Clotilde Seille et ses invités.
Qu'ils ont cassé leur pipe. On pardonne à tous ceux qui nous ont offensés. Les morts sont tous des braves petits. il est toujours joli le temps passé, une fois qu'ils ont cassé leur pipe. On pardonne à tous ceux qui nous ont offensés, les morts sont tous des bras veux-tu.
Et oui, c'est Clotilde Seille et c'est l'émission Un livre découvert qui se prolonge. Vous ne rêvez pas, vous n'avez pas la berlue. C'est la première émission Un livre découvert de la saison 2014-2015 qui se prolonge parce qu'elle dure une heure. À partir de maintenant, on prend beaucoup plus de temps avec nos invités. Et puis, bien sûr, avec ce temps gagné, on va être en mesure de vous donner beaucoup plus de titres aussi. Alors, l'émission se poursuit. Maintenant, on change de chapitre.
Chapitre 3. Le classique de la semaine.
Et oui, ça va faire partie de nos nouvelles rubriques. On va aller revisiter un classique, peut-être qu'on a oublié. Peut-être, vous savez, il y a ces livres qu'on aime à un moment donné réouvrir. On aime replonger dedans. On les a comme oubliés. Et là, moi, je me suis amusée, en tant que Française, je me suis amusée à aller sur un site internet et à taper simplement le classique des classiques québécois. Et je suis convaincue que ce que ça a donné, ça va vous surprendre beaucoup parce que moi, personnellement, je ne m'attendais tellement pas à ça. Si je vous dis Volkswagen Blues de Jacques Poulain, est-ce que ça vous dit quelque chose? Il paraît que dans les écoles, c'est un des livres qui est les plus étudiés au Québec. J'ai Jacques Tremblay à côté de moi. Jacques, vous pouvez vous avancer.
Bonjour,
qui est bénévole à l'émission et qui va participer un petit peu plus tard. Est-ce que vous avez lu ce Volkswagen Blues?
Non, je ne l'ai pas lu, mais je l'ai vu parce qu'il est dans la bibliothèque à la maison et ça fait partie des titres que je me dis « Ah, il faudrait bien que je lise Poulain, il faudrait bien que je lise ça.
Ah, » c'est pour ça que j'ai voulu instaurer cette nouvelle rubrique du classique de la semaine. Alors, Volkswagen Blues, un roman de Jacques Poulain, c'est paru en 1984. L'histoire, brièvement, c'est un écrivain, Jack Waterman, qui part en voyage à bord de son minibus, un Volkswagen, pour retrouver son frère, qu'il n'a pas vu depuis environ 20 ans. Et sur son trajet de la Gaspésie à la Californie, il prend en autostop une jeune métisse, surnommée la Grande Sauterelle, et son chat, et tous deux vont vivre une sorte de road movie, tout en traversant l'Amérique du Nord, qui va leur faire suivre le Saint-Laurent et franchir les Rocheuses jusqu'à la baie de San Francisco, tout en se rapprochant au gré de leur sentiment, bien évidemment. Alors, j'ai ici quelques critiques, parce que moi, je ne peux pas vous dire que je l'ai lu, je ne l'ai pas lu aussi. Je ne l'ai pas lu non plus, devrais-je dire. Donc, je suis allée voir ce qu'on en disait. « Long, mais agréable voyage », dit un lecteur. Et puis, il dit « J'ai aimé les rencontres avec Brassens et ses chansons, parce que Brassens a une large place, du moins une place dans ce livre-là. » C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de vous en faire entendre un petit bout d'une chanson de Brassens, « Le temps passé ». Et puis la route, les paysages, l'histoire, tout cela fait de Volkswagen Blues un véritable road movie, un film plutôt qu'un livre, mais un film où l'on croise aussi les ombres bienveillantes de Jack Kerouac, Ernest Hemingway, et puis les yeux verts brillants comme des lumières de Gabriel Roy. Un film avec en fond sonore une petite musique qui chante les pouvoirs de la poésie et de l'imaginaire. Tout cela, dit ce lecteur, fait qu'il émane de ce livre un charme inexplicable, un pur bonheur de lecture à savourer comme une assiette de fraises à la crème et ses parfums d'été et d'enfance. Mais vous savez, j'aime bien parfois aller chercher des critiques un peu plus mitigées. Et j'en ai une ici, par exemple, il y en a un qui dit « Ben moi, je vais un petit peu noircir le tableau parce que personnellement, je me suis un peu ennuyée en lisant ce livre. » Lui, il a trouvé cette personne-là qui avait un petit peu de longueur, une certaine poésie qu'il a trouvée plus désuète que touchante. voire une certaine naïveté qui va, selon ce lecteur critique, avec l'inconsistance des personnages dont le côté fantasque m'a plutôt énervé qu'amusé, dit-il. Et il y en a un autre qui dit « c'est le moins bon des romans de Poulain et c'est malheureusement le plus lu et le plus enseigné dans les écoles québécoises ». Et ce monsieur-là nous dit « lisez plutôt Les Grandes Marées », mais Les Grandes Marées, je vous dis tout de suite, on ne l'a pas au SQLA, mais je vais vous citer d'autres titres que nous avons de Jacques Poulain au SQLA. Alors, un tout petit extrait de ce livre, de ce classique de la semaine, Volkswagen Blues. La grande sauterelle avait un rapport étrange avec les livres. Un soir, elle lui dit « Il ne faut pas juger les livres un par un. Je veux dire, il ne faut pas les voir comme des choses indépendantes. Un livre n'est jamais complet en lui-même. Si on veut le comprendre, il faut le mettre en rapport avec d'autres livres, non seulement avec des livres du même auteur, mais aussi avec des livres écrits par d'autres personnes. » Dixit, la grande sauterelle. Dans ce livre de Jacques Poulain, Volkswagen Blues, si vous en voulez d'autres de lui, vous pouvez lire ici aussi, au SQLA, c'est disponible. « L'anglais n'est pas une langue magique »,« Chat sauvage »,« Le cœur de la baleine », Fête de beaux rêves, L'homme de la Saskatchewan, ça c'est assez récent, on a enregistré ça fin 2012 pour le SQLA et on retrouve dans ce livre-là des personnages d'ailleurs qui étaient dans Volkswagen Blues, dont La Grande Sauterelle. Il y a aussi La Traduction est une histoire d'amour, toujours signé Jacques Poulain, et enfin Le Vieux Chagrin. Voilà, pour découvrir si ce n'est ce Volkswagen Blues, et bien peut-être même plus encore l'œuvre de Monsieur Jacques Poulain.
Chapitre 4. Le bénévole du jour.
Et là, il vient de faire « Oh, le bénévole du jour, mais c'est moi !» Jacques Tremblay, bonjour.
Bonjour Clotilde.
C'est pas d'hier, vous, hein, que vous êtes bénévole.
Bon, ça fait à peine 3 ans.
Ça fait à peine 3 ans.
Oui, quand on regarde le tableau à l'entrée de nos locaux ici... Il y en a qui sont à 32, 33, oui. 35 ans.
Autrement dit, nous sommes arrivés à peu près ensemble parce que ça fait 3 ans aussi, moi, que je lis bénévolement ici. Alors, donc, voilà. on doit être de la même charrette, comme on dit.
Je ne suis pas certain qu'on fera nos 35 ans, là.
Ça, non, à l'âge qu'on a, ça me surprendrait beaucoup. Ou alors, avec une voix un petit peu chevrotante, ce que je ne souhaite absolument pas à nos lecteurs. Vous venez nous parler, Jacques, d'un livre que vous avez lu.
Absolument.
Dans le cadre de vos activités bénévoles, quel est-il?
Ben, ça s'appelle « Le lecteur » de Jules Verne. Alors, on s'attendrait à un livre d'aventure. Son auteur, Almudena, et non pas Almuneda, Almudena.
Ah, c'est Almudena, pardon.
Almudena Grandes.
Que je vais épeler, hein, A-L-M-U-D-E-N-A, c'est bien ça?
Exact.
Et donc, Grandes, c'est le nom de famille. Ah, et puis moi, j'avais tout faux, alors j'avais mis ça à l'envers.
G-R-A-N-D-E-S, comme...
Comme des grandes filles.
Comme des grandes filles.
Voilà.
Et on réalise qu'en fait, c'est comme l'auteur officiel de la guerre d'Espagne, ou si vous voulez, de la guerre civile en Espagne. Elle a écrit plusieurs ouvrages, dont un qui a été son titre le plus reconnu, qui s'appelle « Le cœur glacé ». Mais après avoir lu « Le lecteur » de Jules Verne, dont je vous ai parlé, j'ai également lu « Le cœur glacé », qui, lui, effectivement, est une grande saga sur une famille espagnole, sur un espace, si vous voulez, de 75 ans à peu près, et qui raconte un peu l'impact terrible que peut avoir eu la guerre civile en Espagne, qui est au cœur de ce livre-ci, « Le lecteur » de Jules Verne, qui raconte, en fait, 3 années de la vie d'un petit garçon, entre 9 et 9 ans, en plein cœur de la période, on pourrait dire, franquiste, 1947, 1948, 1949, qui ont été considérées comme les 3 pires années de terreur, de répression, d'intimidation du régime franquiste, qui en fait était le régime des phalangistes, si vous voulez, qui s'élevait contre les Rouges. Alors, c'est... Donc, un livre qui m'a appris énormément de choses sur la nature de la guerre d'Espagne et sa portée, mais qui m'a appris également beaucoup d'autres choses, notamment sur la lecture. Tout à l'heure, Michel...
Oui, Michel Corbeil.
Michel Corbeil nous parlait de ce que ça lui apportait, la lecture, en termes d'ouverture, de découverte. On a ça dans ce livre-là, je vous en parlerai un petit peu plus tard.
Okay.
On a également la rencontre avec des personnages... nuancés, compliqués, complexes, parce que quand on vit en Espagne à l'époque de ces années-là, on est tiraillé, on est bousculé et on ne peut pas se reconnaître trop ouvertement parce que le moindre mot qui vient remettre en question l'État franquiste peut être considéré comme de la rébellion et objet d'une réparation terrible. Ce livre-là, dans le fond, nous apprend différentes choses sur ce garçon-là et d'abord sur la période. Si vous voulez, je voulais un extrait.
Si vous voulez, dès maintenant,
situe,
pour nous, nous situer.
Un tout petit peu.
Bien sûr.
À propos de cette guerre qui est le contexte général du livre. Une guerre avait divisé l'Espagne en deux et mes parents s'étaient trouvés dans un des camps, tandis que leurs familles respectives étaient dans l'autre. Juste avant le soulèvement, mon père s'était engagé comme volontaire pour que sa femme et sa petite-fille soient à l'abri du besoin. Naturel. On l'avait enrôlé dans une compagnie de la garde civile et par la suite, il n'avait pas cherché plus loin. Il était resté là. En ce qui me concerne, enfant fortuit et non désiré, j'étais né en pleine guerre à l'occasion d'une permission de mon père dans cette maison de Grenade dont je n'avais pas le moindre souvenir. Et mon père, qui avait fait ma connaissance alors que j'avais déjà plus d'un an, aurait donné n'importe quoi pour être muté le plus loin possible de son village. Mais quand son supérieur avait su qu'il connaissait la Sierra Sud comme sa poche, on l'avait envoyé dardard à Fuensanta de Martos, qui sera le lieu principal du déroulement de ce roman, à deux pas de Valdepeñas de Jaén, où la guerre perdurait malgré ce que Don Eusebio s'obstinait à prétendre. Don Eusebio, c'était le professeur du village. Mon père était devenu garde civil par hasard, et pas du tout parce que mon grand-père l'était avant lui. Parce que ce qu'on nous explique, c'est qu'on était garde civil, donc le porte-étendard du franquisme pendant la période dont on parle, mais son père l'était devenu, traditionnellement, il l'était de père en fils. Mais lui, il était devenu par besoin de sécuriser sa famille.
Okay.
On apprendra plus tard dans le roman qu'en fait, le grand-père du garçon ou le père de ce garde civil avait été lui-même dans la rébellion et avait fait l'objet de, d'une exécution sommaire, comme ça se produisait régulièrement.
Régulièrement, oui.
Alors, à travers le témoignage de Nino, parce que c'est ce petit garçon-là, on se familiarise avec trois mondes, si vous voulez. Le monde de la garde civile, qui est une horreur, parce que les familles des gardes civils vivaient à l'intérieur des casernes. Et donc, les chambres des enfants, très souvent, le mur était, le concomitant était concomitant avec souvent une salle de torture.
Oh, mon Dieu.
Avec ce que vous pouvez imaginer comme bruit. Et pour calmer les enfants, eh bien, les plus grands frères ou les plus grandes sœurs pouvaient leur expliquer que non, c'est parce qu'on joue un film à côté. Il ne faut pas vous en faire.
Oh,
alors,
oh là là.
C'est le monde des casernes, si vous voulez. Le deuxième monde que l'on découvre, c'est celui de la liberté et de l'indépendance d'esprit. Parce que ce garçon-là aura la chance de rencontrer des personnages fabuleux. Le principal s'appelle Pepe el Portuguese. Alors ça, c'est un homme d'une trentaine, d'une 35 ans, qui vient s'installer, qui vient d'on ne sait où, qui aurait vécu une peine d'amour et qui s'est installé à l'écart du village dans un vieux moulin.
Ouais.
Et quand le jeune fait sa connaissance, il fait la connaissance d'un homme non seulement qu'il admirera, mais dont il se fera une idole, qu'il ne rêvera pas d'imiter, mais qu'il rêvera d'être, parce qu'il signifiera, si vous voulez, la liberté et l'ouverture. Et le troisième monde sur lequel la vie de cet enfant-là nous fait déboucher, c'est le monde de la lecture. J'arrive enfin à la lecture de Jules Verne, parce qu'à la périphérie de ce village-là vivent des femmes, cinq femmes et trois enfants. Mais les femmes sont seules parce que soit leur mari a été exécuté, où seul leur mari a pris le maquis et s'est enfui et sont devenus comme des révolutionnaires qui vivent dans la montagne. Et ils sont donc tenus à l'écart du village. Et l'une de ces femmes-là, Doña Elena, est une pédagogue née et elle apprendra à Nino des choses aussi élémentaires que la dactylo et la sténo, ce qui lui permettra de devenir autre chose qu'un garde civil.
Okay.
Mais elle lui apprendra surtout à lire en lui faisant découvrir les romans de Jules Verne. Et s'il me reste une minute,
oui,
je lirai
vraiment,
l'extrait,
oui, j'aimerais
je
ça.
L'extrait de Jules Verne à la page 196. Ainsi, écrit donc Nino, tandis que je conquérais l'espace en traversant les étoiles, où je sondais le magma incandescent des profondeurs de la Terre, les romans de Jules Verne prêtés par Doña Elena étaient pour moi bien plus que des livres. Ils assuraient une existence privilégiée à un petit gamin qui n'avait jusque-là jamais eu de raison de se sentir chanceux. Ils étaient le lien entre mes deux vies, le tunnel secret reliant les murs nus de ma chambre, de la maison-caserne, aux cagettes de fruits qui abritaient une bibliothèque vivante. chez Doña Elena.
Oui, oui, oui.
En outre, les romans de Jules Verne me donnaient souvent le prétexte de poser des questions sur tout ce que j'ignorais en histoire, en géographie, en physique, à propos des sextants, des ballons aérostatiques, des sous-marins, des routes maritimes, des exploits, des découvreurs, des expériences dans les laboratoires de tous ces savants fous et sages à la fois, qui, après beaucoup d'erreurs, parvenaient aux plus grandes découvertes de leur vie. Ainsi, ces livres allaient me conduire vers d'autres livres, d'autres auteurs, que j'allais découvrir avec la même avidité, car ils me révélaient des mondes différents, mais tout aussi fascinants, que je finissais par explorer avec les questions que je posais à une femme qui savait toujours me répondre. « Je suis ennuyée, Nino », me disait-elle de temps en temps. « Si on parle tout le temps, on n'avancera jamais. » Et la conclusion, en réalité, je ne voulais pas avancer. Car je ne voulais pas que cela finisse.
Moi non plus, je ne voulais pas que ça finisse. Jacques Tremblay, c'est tellement bonheur de vous entendre. Hein? Jean-Sébastien qui est à la technique, on écouterait cet homme-là lire pendant des heures. Et c'est ce que vous pouvez faire.
Si ça n'avait pas été fait, on avait enregistré ensemble les dialogues de Godin.
Ah oui, ça j'aurais aimé ça.
Ça aurait été
oui,
rigolo.
Absolument. Le lecteur de Jules Verne, et c'était admirablement amené ici par Jacques Tremblay. Jacques Tremblay, bénévole ici chez Vues et Voix, qui a lu ce livre de Almudena. Est-ce que je l'ai bien eu cette fois-ci? Almudena Grandes. Et d'ailleurs, il y a d'autres livres de Almudena Grandes aussi disponibles au SQLA. Il y a Ignace et la joie, oui, et puis également Le cœur glacé.
Ah ouais.
Donc, découvrez tous ces livres-là. Et enfin, celui que vous venez d'enregistrer pour nous, Jacques Tremblay. Je vous rappelle le titre, Le lecteur de Jules Verne. Merci beaucoup. On se revoit bientôt.
À bientôt. Au plaisir.
Chapitre 5. De bouche à oreille, une page de littérature.
Et oui, ça, c'est une nouvelle rubrique qui m'a été, je dois être honnête, c'est Luc Fortin qui m'a demandé, Luc Fortin que vous connaissez bien, animateur ici chez Vues et Voix, et à un moment donné, il m'a dit, tu sais, j'adore ça quand vous parlez de livres disponibles au SQLA, mais il y a des fois où on aimerait entendre ce que ça donne. On aimerait entendre un extrait du livre tel qu'il est lu par un ou une bénévole. Alors, ce sera cette rubrique qui pourra s'appeler « De bouche à oreille » pour des raisons bien évidentes. Et là, pour cette première rubrique, je vous propose un extrait de « La saison de l'ombre » de Leonora Miano. C'est vraiment une nouveauté. Ça vient de sortir en mai ou en juin. C'est disponible depuis vraiment le début de l'été. Et c'est un livre qui était finaliste des prix des libraires catégorie roman hors Québec. Un petit résumé. D'abord, tenez, commençons ça par un petit extrait que je vous lis. Si leurs fils ne se sont jamais retrouvés, si les Ngambi ne révèlent pas ce qui leur est arrivé, on ne racontera pas le chagrin de ces mères. La communauté oubliera les 10 jeunes initiés, les 2 hommes d'âge mûr évaporés dans l'air au cours du grand incendie. Du feu lui-même, on ne dira plus rien. Qui goûte le souvenir des défaites? Alors nous sommes en Afrique subsaharienne, quelque part à l'intérieur des terres, dans le clan Mulungo. Les fils aînés ont disparu, leurs mères sont regroupées à l'écart. Quel malheur vient de s'abattre sur le village? Où sont les garçons? Alors au cours d'une quête initiatique et périlleuse, les émissaires du clan, le chef Mukano et 3 mères courageuses vont comprendre que leurs voisins, les Bouélés, les ont capturés et vendus aux étrangers venus du Nord par les eaux. Dans ce roman que l'on dit très puissant, Leonora Miano, elle revient sur la traite négrière, en fait, pour faire entendre la voix de celles et de ceux à qui elle a volé un être cher. L'histoire de l'Afrique subsaharienne s'y drape dans une prose magnifique et mystérieuse, imprégnée de mysticisme, de croyance et de l'obligation d'inventer pour survivre. Au sujet de son livre, Leonora Miano, à un moment donné, a déclaré dans une entrevue « Simulation et dissimulation n'ont pas leur place en littérature. Quand vous créez des personnages, ce qui importe le plus est ce qui va faire écho chez vos lecteurs, quelle que soit leur origine. C'est la manière dont vous êtes capable de travailler sur la subjectivité de vos personnages, de leur donner une intériorité dense et intense, puisque c'est cet aspect-là des choses qui transcende les territoires et les couleurs. C'est très important d'y arriver, même si on travaille sur des expériences historiques et sociales particulière. Alors, je vous propose d'entendre le tout début de ce livre, tel qu'il est lu ici par une bénévole dont on ne cite pas le nom, parce que vous savez que quand vous prenez un livre, le nom du bénévole n'est jamais cité. C'est comme ça. Moi, par contre, j'ai décidé, quand je reçois des Jacques Tremblay, d'incarner les gens qui vous lisent ce livre. Mais voici donc le tout début de La saison de l'ombre, disponible depuis très peu de temps au SQLA.
Elle l'ignore, mais cela leur arrive au même moment. Celles dont les fils n'ont pas été retrouvés ont fermé les yeux au bout de plusieurs nuits sans sommeil. Les cases n'ont pas toutes été rebâties après le grand incendie. Regroupées dans une habitation distante des autres, elles combattent de leur mieux le chagrin. Le jour durant, elles ne disent rien de l'inquiétude, ne prononcent pas le mot de perte, ni les noms de ces fils que l'on n'a pas revus. En l'absence du guide spirituel, lui aussi perdu on ne sait où, le conseil a pris les décisions qui semblaient s'imposer. Des femmes ont été consultées, les plus âgées. Celles qui ne voient plus leur sang depuis de longues lunes. Celles que le clan considère désormais comme les égales des hommes. Parmi les deux qui eurent le privilège d'être entendues après la tragédie, Ébézé, la première épouse du guide spirituel, a été particulièrement prise en compte. En tant que matrone, elle a assisté bien des parturientes. Elle a vu trembler certains des notables siégeant au conseil alors qu'ils attendaient à l'extérieur de la case où une vie allait éclore, se mordant les lèvres, mâchouillant des herbes médicinales dans l'espoir de se calmer, murmurant des suppliques au Maloba, note 1, pour être délivrés de l'existence parmi les vivants, tant l'épreuve leur était insupportable.
Alors, je vous rappelle que vous venez d'entendre le tout début du livre de Leonora Miano qui s'intitule « La saison de l'ombre ».
Des nouvelles et des livres.
Oui, il y aura aussi des nouvelles et des livres. Il y a deux, trois semaines, on remettait le prix Robert Clich du premier roman à Martin Clavet pour son livre « Ma première blessure ». Donc le prix Robert Clich 2014, bien évidemment, qui n'a pas encore été enregistré. Eh bien là, je me suis dit, pourquoi ne pas parler du prix Robert Clich 2013 qui s'intitule « Zora, un conte cruel » de Philippe Arsenault, qui lui a été enregistré au SQLA. Un livre dont on nous a dit dans voir.ca. En avez-vous assez des contes sirupeux et de la déferlante de mièvrerie qui accompagne les fêtes? Nous avons ce qu'il vous faut. Ce roman gagnant du dernier prix Robert Clich qui récompense des premières œuvres de fiction québécoise est en effet l'antidote parfait au caractère gentillet du conte traditionnel que l'on nous sert en ce moment. Alors là, si vous voulez un livre avec du sang, avec des crachats, avec vraiment là, on y va, on n'est pas du tout dans le romantisme, eh bien allez courir, vous chercher le prix Robert Clich 2013 qui s'intitule, je vous le rappelle, Zora, un conte cruel, et c'est signé Philippe Arsenault.
Quelques nouveautés en rafale.
Alors, quelques titres en rafale, donc des nouveautés. Hein. Ça vient de sortir au SQLA. Angela Merkel, une Allemande, presque pas comme les autres. On nous dit ici, s'il y a un livre que François Hollande devrait lire, c'est bien cette biographie d'Angela Merkel, bien écrite, très documentée, sans être fastidieuse pour un lecteur français. Elle est très, très intéressante. Celle qui a écrit ce bouquin s'appelle Florence Autret, A-U-T-R-E-T. Florence Autret. On nous dit que la personnalité d'Angela Merkel s'est façonnée autour de trois composantes déterminantes. D'abord, elle est la fille de Pasteur, physicienne, et elle a grandi en Allemagne de l'Est. Et rien ne disposait cette jeune femme, ni belle ni coquette, à devenir chancelière. On se demande même pourquoi elle est entrée en politique. Alors, si vous voulez tout savoir sur Angela Merkel, courez vous procurer Angela Merkel, une Allemande presque pas comme les autres, de Florence Autrey. Les anges meurent de nos blessures de Yasmina Kadra. Je ne vous en parlerai pas énormément, tout simplement pour une bonne raison, c'est que la semaine prochaine, je vais m'entretenir avec Gérald Cousineau, abonné du SQLA, qui a lu pour nous ce livre et qui nous dira ce qu'il en a pensé. Les anges meurent de nos blessures de Yasmina Kadra. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici, de l'autre côté de la matraque ? De l'autre côté de la matraque, c'est un essai de 140 pages qui raconte combien d'événements peuvent laisser des traces et des cicatrices profondes. Chez qui ? Chez les policiers. Un policier, dit Martin Prémont de Scott, qui est enquêteur au crime majeur à Québec et qui a écrit ce livre, un policier, ça ne pleure pas. C'est quelqu'un qui se forme une carapace parce qu'il se retrouve devant des choses que les autres ne voient pas. Si on veut voir la police dont on parle tant en ce moment, peut-être sous un autre jour, eh bien, on peut lire ce livre de l'autre côté de la matraque de Martin Prémont. Et puis, peut-être aussi un petit dernier, ces savants qui ont eu raison trop tôt, de Laurent Lemire. De tout temps, dans le domaine des découvertes, avoir raison trop tôt ou mettre à bas les théories établies de son époque n'a suscité que raillerie, condamnation, complot et ironie. De la Renaissance à nos jours, voici un catalogue de ceux qui eurent tort d'avoir raison trop tôt. Si vous aimez les sciences, si vous aimez tous ces gens qui ont fait des recherches incroyables, à commencer par Léonard de Vinci et tant d'autres, procurez-vous ce livre, ces savants qui ont eu raison trop tôt, de Laurent Lemire. Voilà, alors c'est tout le temps qu'il me reste pour la fin de cette émission. Comme toujours, on finit sur les chapeaux de roue. Merci à mes invités, André Vincent, chef des services adaptés de BANQ, Michel Corbeil, directrice du FIL, Jacques Tremblay, bénévole. Merci Jean-Sébastien Laliberté à la technique. C'était Clotilde Seille à la réalisation et à l'animation de À Livre Découvert.